La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Ils s'appellent Pandoravirus, Mimivirus, Molivirus. Les virus géants sont aujourd'hui à la une de la science. Depuis leur découverte, ces très gros virus visibles au microscope optique inquiètent, mais surtout intriguent beaucoup la communauté des biologistes. C'est surtout leur bizarrerie génétique qui pose question. Un génome énorme avec de nombreuses parties inconnues dans le reste du monde vivant. Et aujourd'hui, une équipe française annonce la découverte de trois nouveaux spécimens identifiés à Marseille, Nouméa et Melbourne. Axel, pour comprendre les virus géants, on discute avec celui qui les traque dans la moindre flaque d'eau de la planète.
Oui Mathieu, on part à Marseille en duplex avec les locaux de France Bleu pour rejoindre Jean-Michel Clavry. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour Axel,
bonjour
à tous.
Vous êtes professeur de médecine à l'université d'Aix-Marseille et c'est avec la virologiste Chantal Abergel que vous traquez ces virus un peu partout sur la planète. Également dans le studio avec nous Hervé Kempf pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors Jean-Michel Clavry, pour commencer, racontez-nous un peu comment on organise une chasse aux virus géants.
Bon, c'est assez simple dans notre cas, parce qu'on travaille avec des virus qui ne sont pas pathogènes, qui ne sont pas dangereux ni pour l'homme, ni pour les animaux, ni pour les plantes. Ces pauvres virus infectent des amibes, qui sont des protistes, des petits êtres unicellulaires qu'il y a absolument partout, mais surtout dans les milieux humides. Donc en gros, on se balade dans le monde entier avec quelques petits flacons, et quand on voit, comme l'a dit très bien Mathieu, une flaque d'eau, ou plutôt la vase qu'il y a au fond d'une flaque d'eau, on en prélève un peu, on revient au laboratoire, et on les met en présence de leurs fameuses amibes. Et s'il y a des virus qui peuvent s'accommoder de cette hôte, eh bien ils les tuent et c'est comme ça qu'on les détecte.
Alors en comparaison avec des virus classiques, pourquoi vous les appelez géants? Quelle est la taille de ces virus?
Comme Mathieu l'a déjà dit, par définition, les virus ont même été découverts en 1892 parce qu'ils passaient à travers les filtres connus de l'époque. Donc, ils ont toujours été beaucoup plus petits que les bactéries, que les cellules animales, bien sûr. Et donc, ils sont géants parce que c'est la première fois qu'on voit des virus, mais qui sont parfaitement visibles au microscope optique et qui ont donc des tailles de l'ordre du micron et qui ne passeraient pas justement à travers ces fameux filtres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont probablement dû être ignoré pendant presque plus d'un siècle, parce qu'on avait défini au départ les virus comme étant tout petits, et ceux-là sont très gros.
Et on en trouve vraiment partout sur la planète, dès qu'on trouve un peu de vase, on trouve des virus géants dedans.
Disons que nous nous intéressons pour l'instant uniquement aux virus qui sont capables de coloniser et d'infecter des amibes. Et il se trouve que ces amibes sont effectivement des êtres unicellulaires qui sont absolument partout dès qu'il y a un petit peu d'eau. D'ailleurs, même de l'eau salée, on les trouve également dans la mer. Et donc, c'est un très bon sujet d'étude de ce point de vue-là. Mais je suis sûr que si on prenait d'autres types de cellules infectées, on aurait probablement d'autres types de familles de virus géants qui vont apparaître. Et donc, ce n'est que partie remise, je dirais. Pour l'instant, on n'a probablement qu'une toute petite vision de la diversité actuelle de ces très gros virus.
Jean-Michel Clavry, Hervé Kempf est très intrigué par vos virus géants. Il a une question à vous poser pour Reporter.net.
Oui, on les trouve dans les flaques d'eau, mais vous dites qu'on les trouve aussi dans les océans. Est-ce que vous êtes déjà capable de dire s'ils ont un rôle dans la gestion des écosystèmes marins?
Alors, des pandoravirus, pour l'instant, n'ont jamais été encore découverts dans des milieux marins, mais le premier type de virus géant qui a été découvert, qui était Mimivirus, qui a été découvert en 2003, à toute une famille de virus qui lui ressemblent beaucoup, qui sont effectivement des virus qui infectent des microalgues ou d'autres protistes dans la mer, ceux-là, et qui ont justement un rôle extrêmement important parce que leur rôle est de réguler les populations de protistes et de microalgues à un point que l'on n'imaginait pas encore très récemment, puisque plus d'un tiers de chacune de ces petites cellules de plancton qu'on ne voit pas sont tuées chaque jour par une infection virale. Autrement dit, ces virus ont un rôle de régulation absolument capital dans la production d'oxygène par les océans, c'est quand même un tiers de l'oxygène qui est produit sur Terre, et surtout dans la captation du CO2. Donc ces virus sont le dernier petit maillon régulatoire de la chaîne qu'on n'avait pas encore découvert.
Alors vous commencez à avoir une sacrée collection de pandoravirus, de mimivirus, et là l'idée du papier que vous publiez dans la revue Nature Communication, c'est de les comparer. Vous en avez assez pour essayer de comprendre leur évolution, c'est ça?
Alors, c'est toujours ce qu'on fait quand on trouve un premier virus ou un premier événement en biologie. On se pose toujours la question, est-ce que c'est un phénomène de foire ou est-ce que ça nous dit des choses qui sont plus générales sur la biologie? Donc, il a fallu effectivement attendre d'avoir un certain nombre de ces virus pour pouvoir les comparer ultimement et surtout pour chercher à comprendre d'où venaient les très nombreux gènes qu'ils ont qui ne ressemblent absolument à rien. Parce que c'était, dès le début, ça nous avait beaucoup interpellés. Ce sont les premiers organismes vivants, si on veut dire, dont plus de 90% des gènes que l'on peut détecter ne ressemblent à rien de connu. Alors il faut bien voir que la vision actuelle qu'on a de l'évolution, c'est que tout a démarré par une espèce de Big Bang biologique qui a créé un grand nombre de morceaux de gènes, on appelait ça comme des Legos, et que depuis cette époque, on ne fait que réassembler, souder, casser quelquefois, mais assembler de différentes manières, toutes ces parties de Lego, je dirais primordiales, pour faire les gènes d'aujourd'hui. Et là, on a eu l'impression dès le premier virus que les gènes qu'il avait, n'appartenaient pas à cette famille de Lego ancestraux, n'étaient pas faites à partir de ces Lego ancestraux, ne ressemblaient à rien. Et donc ça pose un problème assez fondamental, d'où viennent ces morceaux de gènes, ces gènes qui ne ressemblent à rien, apparemment pas de la soupe primordiale, je dirais, des Lego géniques du début.
Voilà, c'est la soupe primitive que vous décriviez, hein, Jean-Michel Clavry, c'est ça, c'est les débuts de la vie au fond?
C'est bien après la soupe primitive, hein, qui n'était que biochimique. Quand on a commencé à faire les premiers organismes vivants, on parle de Lucas, le premier ancêtre de la cellule. Il avait probablement plusieurs milliers de gènes, ou un millier de gènes peut-être. Il a bien fallu les créer d'une manière ou d'une autre, même de nouveau à l'époque. Mais on avait l'impression, la vision actuelle, c'est que tous les gènes contemporains sont tous cousins de ces différentes familles de gènes qui ont été créés à cette époque-là. Et donc, c'est un vrai mystère de comprendre comment des gènes n'ont pas d'histoire. Enfin, comment on peut avoir l'impression que, certains de ces gènes, notamment des pandoravirus, ne se prolongent pas dans le passé. D'où viennent-ils?
C'est une question sans doute très très candide, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez trouvé quelque chose de très important qui pourrait bouleverser la théorie de l'évolution, qu'on trouve partout, et pourtant ces virus, ça représente quelle masse? On a l'impression qu'on devrait en trouver partout maintenant, et ça devrait être une masse énorme par rapport à tous les virus qui sont connus par la virologie depuis plus d'un siècle. Donc c'est un peu l'éléphant dans le couloir que vous nous dites qu'on n'aurait jamais vu depuis.
Effectivement, parce que si vous cherchez un éléphant avec un microscope, vous avez peu de chances de le trouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis que la virologie existe, en 1892 exactement. On a toujours cherché des virus qui, par définition, étaient tout petits, avaient très peu de gènes et en plus surtout causaient des maladies visibles. Parce qu'il faut bien voir que la virologie, je sais que nous avons des collègues médecins dans le studio, s'est développée essentiellement pendant les premiers 100 ans pour chercher à comprendre l'origine de maladies. Maladies humaines, maladies de plantes, maladies d'animaux. Or il se trouve que là, ces virus sont totalement silencieux puisqu'ils tuent des pauvres amibes dont personne n'a absolument rien à faire. Et donc on ne se rendait pas compte qu'ils étaient très pathogènes, mais pour les amibes, mais pas pour les animaux, ni les plantes, ni les hommes.
Jean-Michel Clavry, une dernière question. Il y a 3 ans, vous en aviez découvert beaucoup moins et vous avez répondu à une interview en disant que ces virus étaient les oubliés de l'évolution. Est-ce que 3 ans après, vous êtes toujours d'accord avec cette façon de les décrire ?
Pas vraiment, parce qu'en fin de compte, depuis ces découvertes de virus géants, ils ont vraiment repris un petit peu le centre de la scène dans les milieux spécialisés, bien évidemment. Et au niveau des évolutionnistes, ils font l'objet et leur origine de tous ces virus, pas seulement des pandoravirus, mais des virus en général, ils font l'objet de débats extrêmement violents, sanglants, mais aussi actifs et intéressants entre les biologistes pour mieux comprendre quelle peut être l'origine de ces virus par rapport au monde cellulaire notamment. Et on est content de contribuer une petite brique dans ce débat, parce que je vous assure que certainement cet article va causer de gros débats. Mm-hmm. Mais disons que les virus géants ont vraiment été très importants pour relancer l'interrogation générale sur qu'est-ce que sont les virus, d'où viennent-ils et où nous amènent-ils essentiellement.
Nos invités, en tout cas Marc Billot et Caroline Robert, vous écoutent avec beaucoup d'attention, Jean-Michel Clavry, n'est-ce pas Marc Billot?
Ouais. Impressionné par cette mode découverte.
Ouais, Caroline Robert, même chose.
Des choses qui étaient là, on ne le savait pas, maintenant on le sait. C'est... C'est extraordinaire.
Grâce à nos chasseurs de virus, ouais, voilà Jean-Michel ouais. Clavery et Chantal Abergel, entre autres, et leurs équipes. Merci beaucoup Jean-Michel Clavery. Merci aux équipes de France Bleu à Marseille qui nous ont permis ce duplex. Un petit mot Hervé sur le sommaire de reporter.net.
Oui, rapidement, à la une aujourd'hui, en cette journée très arrosée d'eau, on s'est intéressé ouais. au vin et notamment à la vigne, parce que voilà, on parle beaucoup du vin, on parle pas assez de la vigne qui pose un vrai problème. On était voir un pépiniériste, et vous saurez tout après sur le cep américain et les porte-greffes. Et puis aussi une nouvelle importante, un rapport de l'IRSN, l'Institut de Recherche et de Sécurité Nucléaire, sur lequel on revient, parce que pour la première fois en France, on envisage officiellement l'entreposage à sec des déchets nucléaires.
Oula.
C'est un rapport important.
Bien, on va lire ça attentivement alors pour savoir de quoi il s'agit. Reporter.net pour en savoir plus. Merci beaucoup Hervé et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique sur la planète Mars, présentée la semaine dernière par la NASA, le robot Curiosity a détecté une variation de la concentration en méthane dans l'atmosphère martienne qui augmente du simple au triple en fonction des saisons. La découverte ravit les exobiologistes car le méthane est un composant prédominant de la vie microbienne. Pourquoi la quantité de méthane varie-t-elle autant dans l'air et atteint un pic en été? L'une des hypothèses est que ces variations pourraient être le signe d'une activité biologique dans le sol martien. C'est donc évidemment une affaire à suivre. Une étude publiée par l'Association des psychologues américains confirme que la faim est un facteur favorisant la colère chez l'homme. En revanche, être conscient de son envie de manger permettrait d'éviter cette émotion négative. Dans le dictionnaire d'Oxford, cet état est appelé « hungry », contraction du mot « hunger », la colère, et de « hungry », la faim en anglais. Aucune traduction française n'existe pour ce mot, mais si vous avez une idée, eh bien vous pouvez la laisser sur la page Facebook de La Tête au Carré. Des auditeurs nous ont déjà laissé leurs propositions. Et puis tous à vos agendas, la 6e édition du Forum du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, va se dérouler les 15 et 16 juin prochains à Toulouse. La Ville Rose va accueillir 80 chercheurs venus de toute la France qui présenteront, échangeront et débattront avec vous. Les grandes découvertes de l'année seront présentes, ainsi que des séances de sciences participatives. Nouveauté cette année, une soirée spéciale Grand Procès qui posera la question de la place des algorithmes dans les générations futures. Si vous souhaitez avoir tout le programme, le site du CNRS.fr pour savoir ce qui se passe donc près de chez vous à Toulouse cette semaine.